Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Il est 20h30, nous sommes jeudi soir, c'est l'heure de Zoom Écologie. Et nous sommes le premier jeudi du mois, vous retrouvez l'équipe des radioactifs et des radioactives. On reste fidèles à nous-mêmes et on vous propose, comme diraient les autres équipes, un truc d'intello. Même si c'est pas complètement vrai, parce que la fois précédente, on a parlé des enjeux du développement de l'apiculture à Madagascar, une émission qu'on vous invite à retrouver sur notre site internet zoomecologie.net. Enfin ce soir, on parle d'écoféminisme, et oui, en écoutant des universitaires, mais parfois ça les empêche pas d'être intéressants, et ce soir même intéressantes. Donc ce sont des sons qu'on vous propose d'écouter, qu'on a enregistrés à l'Université populaire de l'eau et du développement durable du Val-de-Marne, lors d'un débat animé par Lia Marconde, dans le cadre d'un cycle de conférences qui partait du constat de l'échec de l'articulation de l'écologie et du féminisme. En effet, l'écoféminisme est vite accusé de rapprocher les femmes d'une proximité douteuse avec la nature. Mais est-ce que l'on sait vraiment de quoi l'on parle quand on parle d'écoféminisme? C'est pas si sûr. Et loin des théories, il faut commencer par revenir aux mobilisations mal connues ou oubliées des féministes écolos des années 80. C'est donc à la découverte d'un mouvement qu'on a bien mal compris qu'on vous propose de partir ce soir. On écoutera d'abord Bénédicte Zitouni, qui est donc sociologue à l'Université de Bruxelles, qui nous raconte deux des premières luttes de femmes qui se revendiquent de cet écoféminisme. Ce sont deux actions antinucléaires, la Pentagon Action aux États-Unis et Green and Common en Angleterre. On fera ensuite une petite pause musicale en restant dans le thème avec Kenny Arcana et sa chanson « Terre-mère n'est pas à vendre ». Et puis on écoutera Émilie H, qui est philosophe à l'Université de Nanterre, qui nous donnera des éléments de compréhension de cet écoféminisme en le situant dans son époque, c'est-à-dire les années 80, dans les pays anglo-saxons. Elle reviendra notamment sur le courant païen de cet écoféminisme, ainsi que sur les supposées dimensions essentialisatrices et sur l'exaltation des qualités féminines à laquelle on a bien vite tendance à réduire l'écoféminisme. Vous verrez, ce sont autant d'éléments qui permettent de dépasser la réception franco-européenne qu'on a faite de ce mouvement et de nous ouvrir, si ce n'est de nous réconcilier, avec un mouvement qui, même s'il ne correspond pas à nos catégories militantes ou de pensée habituelles, se révèle bien intéressant. Tout de suite, Bénédicte Zitouni.
Bonsoir, moi j'aimerais bien vous parler de deux actions dont on dit qu'elles ont lancé l'écoféminisme en Angleterre et aux États-Unis au début des années 80. Et la première action, c'est celle qu'on appelle la Pentagon Action, ou action du Pentagone, menée en 1980 et puis réitérée en 1981. La deuxième, on l'appelle celle de Greenham Common, qui est un camp de femmes et de paix qui a débuté en 1981 et qui a perduré jusqu'en 2000, même si la période la plus active va de 81 à 87, près de la base militaire de Newbury en Angleterre. Les deux actions ont été initiées par des groupes de femmes qui s'appelaient Women and Who for Life on Earth, donc ça dépendait si on se trouvait aux États-Unis ou en Angleterre. Les deux groupes se sont créés indépendamment l'un de l'autre. Une action a plutôt réagi à la catastrophe de Three Mile Island en 1979. L'autre action était une réaction à la controverse sur l'énergie nucléaire, sur la campagne lancée par le gouvernement anglais pour préparer les populations à une éventuelle guerre nucléaire, et aussi la controverse qui était née autour de l'arrivée des missiles, d'un nouveau type de missile nucléaire en Angleterre. Donc c'est ça qui a déclenché l'action du côté anglais. Mais très vite, les deux réseaux, les deux groupes se sont côtoyés, et très vite, les participantes de ces actions ont dit, mais finalement, nous revendiquons l'écoféminisme, même si leur nom est autre. Alors, qu'est-ce que l'écoféminisme, en quelques mots quand même? C'est un mouvement qui part du constat suivant. Les ravages actuels sont provoqués ou sont le fait du capitalisme et du scientisme, qui tous deux ont dévitalisé, rendu passif, rendu disponible à la production et à la reproduction, tant les femmes que la nature, tant les corps de femmes que les corps de la nature. Et un classique qui établit assez bien cette thèse, qui a été publiée en 1979, c'est The Death of Nature de Caroline Merchant, si jamais ça vous intéresse. Alors le féminisme ici est entendu comme une revendication de la non-violence, une revendication aussi, une remise en question plus généralement de tout ce qui est les structures de pouvoir. Et l'écologie est plutôt entendue comme la revendication de modes de production et de reproduction qui ne suivraient plus une ligne toute tracée par la machine capitaliste et productiviste. En gros, c'est là-dedans qu'on se trouve, et dans la jonction, ce que ces femmes vont revendiquer, c'est une régénération des écosystèmes, régénération des terres, une réhabilitation des communautés et aussi une récupération au fait de tout s'est laissé pour compte par le capitalisme et le scientisme, donc récupération de l'action et de la capacité d'agir des êtres vivants, tout ça diminue. Donc de fait, l'écoféminisme établit une alliance entre les femmes et la nature, entre les femmes et les non-humains. Et de façon plus générale, elles vont parler de toutes les minorités trans-espèces qui doivent s'allier pour faire face à la machine productiviste qui détruit tant de choses dans son passage. L'idée est de faire renaître donc un monde vivable et qu'il faut travailler sur tous les fronts à la fois pour y arriver. Ça, c'est une idée assez présente. Maintenant, revenons-en aux deux actions. Donc, pourquoi je voudrais vous en parler ? Parce que les femmes qui y ont pris part, à travers ces actions, réussi à faire une chose que je trouve assez remarquable, qui est de se, bon, j'appelle ça décoloniser les esprits, hein, puisque les théories coloniales ne sont pas loin, mais bon, on pourrait aussi dire qu'elles se sont désapocalyptiser le corps et l'esprit, c'est-à-dire que là où elle pensait que tout était joué, que la destruction allait se faire même dans leur vie à elles, ben, petit à petit elles ont commencé à nouveau à agir et à prendre du plaisir dans l'action politique. Donc elle parle elle-même d'une retrouvaille, de retrouver la joie, qu'on peut définir ici comme la puissance d'agir que rêvait toute action politique. Alors, avant de passer aux actions, je voudrais juste épingler trois éléments qui me semblent assez importants et qu'on trouve à travers toutes les actions, et notamment les deux que je vais vous présenter ici. Premièrement, et ce qui m'a frappé quand j'étais dans les archives et que je lisais leurs correspondances et les pamphlets, etc., premièrement, c'est un rapport au temps assez particulier. Donc, même si elles disent qu'il y a une catastrophe, que la destruction totale n'est pas très loin, que la destruction, quelque part, est déjà en cours, ces femmes mettent l'accent, ou ont réussi à mettre l'accent, sur l'histoire en train de se faire. Les dés ne sont pas déjà jetés, et à y réfléchir, disent-elles, les dés ne seront jamais jetés. Même si la catastrophe a lieu, la question est encore toujours comment vivons-nous, comment allons-nous réhabiliter tous ces espaces qui ont été détruits. Il s'agit donc d'agir dans la catastrophe. En fait, la catastrophe a déjà lieu. Il s'agit non pas de se préparer à la catastrophe, ni de préparer l'après-catastrophe. Il n'y a absolument plus d'au-delà dans leur action, puisqu'elles sont persuadées qu'elles sont en train d'infléchir le cours des événements, que l'avenir se crée ici et maintenant à travers toutes les actions politiques qu'on peut mener. Deuxième élément, le groupe d'affinité. Les deux actions que je vais vous présenter ici se sont construites à travers les groupes d'affinité. Des groupes d'affinité, c'est en gros un groupe de voisins, d'amis, de connaissances qui se rencontrent de façon assez régulière pour parler de leurs désirs et de leurs envies politiques, et surtout pour préparer des actions politiques à venir. Donc, pour préparer aussi leur participation à des manifs ou à des occupations ou à d'autres actions politiques qui seraient envisagées par des coupoles plus larges, disons. Donc, le groupe d'affinité est là pour préparer l'action, mais aussi pour porter les conséquences de l'action, et on y reviendra. Troisième élément, c'est l'importance du rite. Vous allez voir, dans ces actions, il y aura des poupées, des déesses, des processions, il y aura des chants, odes à la vie, et ce genre de choses. Et souvent, les commentateurs ont dit, mais finalement, l'écoféminisme amène des actions politiques très symboliques. On parle de symboles. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas vraiment de symboles, mais qu'on est beaucoup plus proche de quelque chose qu'on pourrait appeler des mécanismes de dépassement et donc aussi des techniques de résistance. C'est-à-dire la tension du rite, la présence de l'artefact permet à ces femmes de se dépasser, permet à ces femmes de se projeter et aussi de prendre du plaisir à l'action et de ce fait aussi de résister à la violence des forces d'ordre. Et surtout, et ça c'est un point qu'elles disent, sur lequel elles reviennent souvent, de résister au découragement, de résister au burn-out du militant. Voilà, alors passons à la première action, l'action du Pentagone ou action Pentagone. Il n'y a plus beaucoup de traces de cette action, mais il y en a une qui est vraiment très très intéressante. C'est un article écrit par deux militants dans un journal féministe Off Our Backs. Et cet article est assez intéressant parce que les deux femmes se posent des questions et dès lors elles font un compte-rendu très détaillé de l'action parce qu'elles-mêmes ne savent pas quoi en penser. Elles-mêmes se disent, mais finalement c'est une action très originale, mais d'un autre côté, est-ce vraiment de cela qu'on a besoin aujourd'hui? Alors à vous d'en juger, je vais vous raconter l'histoire et puis on verra bien ce que vous en pensez. Lundi matin, 17 novembre 1980, 2000 femmes se dirigent vers le Pentagone. Elles portent quatre mascottes qui ressemblent à des énormes poupées de carnaval. La plupart d'entre elles est déguisée et maquillée. Par ailleurs, il y en a plusieurs qui ont des instruments de percussion qu'elles n'utiliseront qu'à des moments très précis de la manifestation, qui, aux yeux des deux militants slash journalistes qui observent le tout, ressemble finalement à une énorme pièce de théâtre. En outre, plusieurs femmes sont munies de fils de laine avec lesquels elles tissent des énormes toiles d'araignées devant les portes du Pentagone. C'est la première image qu'on avait vue. Alors, mais ne devançons pas les événements et revenons en arrière. Avant tout cela, disent les deux journalistes, les femmes s'étaient rendues au cimetière militaire d'Arlington, à deux pas de là, qu'elles avaient parcouru en silence. Elles n'avaient rien dit, rien scandé. Puis, à leur arrivée au Pentagone, avant même de s'attaquer aux portes et aux bâtiments même, elles avaient érigé leur propre cimetière, afin de compléter celui qu'elles venaient de visiter. Et donc là, vous voyez des images de ce cimetière. Des femmes venues des quatre coins des États-Unis avaient déposé donc des pierres tombales pour toutes celles qui sont mortes de cette machine de guerre, disent-elles, de cette machine de productivisme qui, aux mains des hommes qui mènent les affaires du monde, ne sème que terreur, destruction, ne sème que la mort. Alors ça, nous le savons parce que le déclarons à la fin de la manifestation. Donc à nouveau, n'allons pas trop vite. Ces femmes déposent donc des pierres tombales, et ce pour des femmes comme Karen Silkwood, qui est une biologiste qui est décédée lorsqu'elle allait vers une interview pour dénoncer les abus faits par son entreprise pétrochimique. Mais aussi pour des femmes comme Anne Frank ou Marilyn Monroe ou les femmes de Love Canal et d'autres encore, puisque je n'ai pas tous les noms ici. Il y a aussi cette femme mère de famille qui n'a jamais participé à une action politique, mais qui s'est rendue seule de la Californie à Washington avec un seul écriteau qu'elle vient déposer dans ce cimetière. Et l'écriteau dit... Donc la pierre est là en honneur de, et je cite, « des trois femmes tuées par mon fils au Vietnam ». Donc, après avoir déposé toutes les pierres, les femmes se laissent guider par leur première poupée, qui est la poupée du deuil, et qui est celle-là. Alors, je ne suis pas sûre exactement de ce qui se passe là, mais certains témoignages disent qu'elles gémissent, qu'elles pleurent leur mort, et donc c'est le premier moment où elles rompent vraiment le silence. Et pour le reste, il n'y aura plus de silence. Donc là, elles passent au Pentagone même, et elles vont se laisser guider par les trois autres poupées qu'elles ont amenées. La première poupée est rouge et elle exprime la rage. « Nous sommes en colère », disent-elles. « We are angry ». Et leurs chants, disent les deux journalistes, sont « eerie », étranges, inquiétants. Elles hurlent aussi, donc là, on se trouve ici, elles hurlent aussi, elles sortent leurs instruments de percussion et font un boucan terrible. Puis vient une autre poupée. C'est la poupée de l'empowerment, ou de la capacitation, qui distribue des écharpes et des étoffes de toutes les couleurs, après quoi les femmes avec ces écharpes vont encercler l'entièreté du Pentagone. Parmi elles, il y a des sorcières, donc des femmes qui se présentent comme sorcières et qui se disent descendantes des sorcières et qui vont maudire le Pentagone et lui jeter un sort. « Si nous pouvons fissurer ces murs, disent-elles, tout le système s'effondrera. » If we can crack the walls of the Pentagon, the whole system will crack. Elle ne cesse de répéter ça. À ce stade-là, donc encerclant le Pentagone, les petits groupes, donc c'est ces petits groupes d'affinité, vont commencer tous à scander Take the toys away from the boys, enlevez donc les jouets des mains des garçons, tandis que des messagères parcourent l'entièreté du cercle pour tenir tout le monde au courant de l'exploit qui est en train de se faire, donc pour mettre tout le monde au courant. Puis vient finalement la dernière étape, donc l'idée était de cadenasser le Pentagone, c'est un peu dans cette idée-là qu'elle jouait. Et puis vient la dernière étape, les femmes sortent la poupée du défi ou de la résistance, defiance, et avec leur groupe d'affinité, elles se rendent vers les portes du Pentagone, où là, elles vont lire leur déclaration d'unité. Ici, on a quelques photos de l'encerclement. Et ça, c'est le Unity Statement. Et je vais vous lire juste le début. Donc, pour nous, nous nous rassemblons au Pentagone ce 19 novembre, car nous avons peur pour nos vies, peur pour la vie de cette planète, notre Terre, et pour la vie des enfants qui sont notre avenir humain. Nous sommes des femmes qui viennent pour la plupart du nord-est des États-Unis. Nous sommes des femmes de la ville qui connaissons la dévastation et la peur qui règne dans les rues. Des femmes de la campagne qui pleurent la perte de la ferme, de la petite ferme, et qui vivent sur des terres empoisonnées. Nous sommes jeunes, vieilles, mariées, célibataires et lesbiennes. Nous vivons dans des familles, des dortoirs, et certaines parmi nous sont des mères seules. Nous avons des boulots variés, nous sommes enseignantes, ouvrières, employées, avocates, fermières, etc. Nous sommes toutes des filles et des sœurs. Nous sommes ici, nous sommes venus ici pour pleurer nos morts et pour hurler notre rage et pour défier le Pentagone parce qu'il est le lieu où s'opère le pouvoir impérialiste qui nous menace toutes. Chaque jour, tandis que nous travaillons, étudions, aimons, les colonels et les généraux qui planifient notre annihilation sortent et rentrent tranquillement de ces portes. Nous sommes entre les mains d'hommes dont le pouvoir et la richesse les ont séparés non seulement de la réalité quotidienne, mais aussi de l'imagination. Nous avons bien raison d'avoir peur. Alors, ça continue. Après ça, elles vont tisser les grandes toiles, la police va intervenir et il y a une centaine de femmes qui se trouveront en prison pendant plusieurs jours. Ça, c'est la fin de l'action. Un an plus tard, les Européennes vont débarquer également et elles vont doubler le nombre, elles seront à 4000 à ce moment-là. Alors, vous pouvez évidemment commenter dans tous les sens. On peut parler des coalitions inattendues qui ont eu lieu là, la multiplicité des problèmes qui sont abordés par ces femmes dans la déclaration, aussi le caractère résimanant de l'action, ça c'est présent à travers toutes les actions écoféministes, et aussi on pourrait parler de la façon dont elles préparent ce type d'action, et je laisse tout ça. Alors, maintenant je passe à Greenham Common. Tout a commencé par une longue marche organisée par quelques femmes d'un village près de Cardiff en août 1981. Certaines de ces femmes étaient féministes, mais pas toutes. Certaines étaient écologistes, mais pas toutes. Et toutes disent que ce qui les rassemblait, c'était qu'elles en avaient marre. Elles en avaient ras-le-bol, elles disent même avoir pété un plomb et juste décidé de marcher et d'aller vers une de ces bases nucléaires parce qu'il y en avait marre. Bon, elles y vont. Comme vous le voyez, elles ne sont pas du tout nombreuses, elles sont une trentaine. Il y a des enfants, il y a des adolescentes aussi. Et en bout de compte, ce qu'elles vont dire, c'est qu'elles se sont bien amusées. Ça, c'est le point de départ de Green Lincoln. Elles se sont finalement installées près de la base, elles ont dormi près des grilles de la base. Alors l'histoire est assez intéressante là, parce qu'elles n'avaient pas du tout prévu de rester là, ne fût-ce même que de dormir une nuit à la base, mais elles étaient énervées, elles étaient offusquées aussi que les autorités ne leur prêtent absolument pas attention. Donc au moment où elles apprennent que personne ne les attend à la base, même si elles avaient annoncé qu'elles voulaient rendre une lettre aux autorités, elles sont énervées et disent « on va faire comme les suffragettes et on va s'enchaîner au gris ». Donc elles s'enchaînent et les autorités, minimisant complètement l'affaire, n'ont pas réagi. Petit à petit, ces femmes se disent que ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée et tout qu'on fait, on resterait bien. Et elles restent et elles sont restées 19 ans. Donc, mauvais calcul de la part du commandant. Alors, elles ont occupé les lieux pendant donc, des années, et là on a des très très belles photos de l'occupation, donc des centaines, si pas des milliers de femmes ont été impliquées dans cette action. Elles viennent de tous bords, elles viennent de tout âge, elles se sont relayées dans l'action afin d'occuper donc, le périmètre de la base. Pour un jour, pour un week-end, pour des vacances, pour quelques mois, tout était possible tant qu'on y passait du temps et qu'on occupait les lieux. Dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles d'ailleurs, puisqu'il y a eu de nombreuses évictions et souvent très brutales. Donc à un certain moment, on verra une photo, notamment celle-ci, et on voit qu'elles ne pouvaient même plus mettre des tentes. Et donc chaque nuit, elles étaient évincées, chaque matin, elle revenait, elle n'avait que le droit de se construire elle-même des tentes, comme vous le voyez là. Alors, même dans ces conditions-là, elles ont occupé les lieux et elles ont agi. Elles ont mené énormément d'actions de toutes sortes. Elles pénétraient dans la propriété, donc du trespassing, elles faisaient obstacles, elles obstruaient les entrées, elles faisaient des blocades, elles organisaient ce qu'elles appelaient des dying. Elles organisaient aussi des marches, et donc ça pouvait se faire en petits groupes, et des performances aussi. Et elles ont aussi mené énormément de rites païens, et là au nom de la descendance avec les sorcières, mais aussi il y a le néopaganisme en général. Un rite païen concerne le magnifique dragon de la terre. Alors je vous lis le début du pamphlet qui invite à participer à l'action. Il était une fois un dragon, le magnifique dragon de la terre. Depuis le début des temps, il errait sur la terre pour protéger la terre. Mais les hommes ont commencé à détruire la terre. Lentement, le dragon de la terre devenait invisible aux hommes. Il n'y avait plus de protection et n'est plus visible que dans nos imaginations. Nous allons aujourd'hui la rematérialiser. Et puis il y a tout un rite autour de ça pendant plusieurs jours. Elles ont également décoré les grilles, fabriqué des bannières et j'en passe. Donc voilà, tout ça pour dire que le champ était laissé libre. On occupait les lieux et les groupes d'affinités pouvaient lancer des initiatives. Et il n'y avait que quelques actions qui étaient vraiment menées à des échelles plus larges et de façon plus structurée. Il y a deux actions, et c'est avec ça que je vais terminer, deux actions qui sont vraiment restées dans les annales des luttes anglaises. La première, et toutes deux d'ailleurs, ont lieu pendant l'hiver de 82-83. La première s'appelle Embrace the Base, donc embrassons ou encerclons la base. Là, 30 000 femmes venues du Royaume-Uni et de l'étranger ont encerclé la base sur une distance de 14 km. Elles ont décoré la grille avec les affaires des vivants, comme elles disaient, des enfants ou d'autres êtres qu'elles voulaient honorer et qui, pour elles, disaient la puissance de la vie Elle voulait l'amener là, dans le lieu de mort. Puis elles se sont tenues la main et ont chanté une série de chansons qu'elles avaient apprises par cœur à l'avance. Elles connaissaient très bien tous les actes de la performance. Et toutes disent que ça a été un moment exceptionnel pour toutes, enfin, tous les témoignages qu'on a récoltés après coup. L'autre action qui a marqué les esprits et qui a été elle aussi fort médiatisée est celle qu'on appelle la silo dance ou la danse sur le silo. Et donc là, on est au réveillon 82-83, à minuit, 44 femmes ont pénétré la base, elles ont grimpé sur la butte qui contenait les têtes nucléaires, donc on se trouve vraiment sur la butte en dessous desquelles il y avait le nucléaire, pour ainsi dire, et elles se sont d'abord recueillies, puis elles ont pris la mesure du lieu et de l'avenir que contenait ce silo, et puis elles ont réclamé cet avenir en dansant, et en chantant. Et comme la presse avait été invitée, elles ne sont pas bêtes, on a plein d'images, la presse a fort médiatisé les choses, comme elles n'avaient pas averti la police, ben eux, ils ont tardé à arriver, donc elles ont eu pleinement le temps de faire le rituel. Alors pour conclure, juste ce petit mot, ce serait une erreur, je crois, en tout cas c'est ce que je voudrais vraiment faire passer ici, ce serait une erreur de dire que ce type d'action, finalement, c'est des actions symboliques qui ne changent rien au cours des événements. Ce type d'action n'affecterait pas le cours des événements. Les femmes de Greenham Common ont réussi à faire plusieurs choses. Je les énumère très très vite, ces réussites. Premièrement, elles ont réussi à récupérer les terres de la base. Toutes ces terres, maintenant, ne sont plus propriété de la base militaire, ni même de l'armée ou de la RAF. Elles sont à nouveau terres communes, non pas seulement terres publiques, mais terres communes. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, elles disent elles-mêmes, et il y a un site d'archivage qui est vraiment intéressant, yourgreenham.com, elles disent elles-mêmes, nous avons réussi à être une nuisance. Et une nuisance, ce n'est pas rien. We'll make a fuss and even more fuss. Pour leur gouvernement qui pensait faire les choses tranquillement et qui, vraiment, Thatcher l'a dit à plusieurs reprises, the Greenham Common. It's a pain. Donc, elles ont réussi ça. Pour elles, c'était important. Et elles ont aussi jeté le trouble dans les relations avec les alliés, notamment l'Union soviétique, où elles ont été à plusieurs reprises. Puis, on peut dire, et pour moi, c'est à la limite encore une des plus grandes réussites, pour toutes celles qui y ont participé, elles ont... Greenham Common a vraiment signifié une décolonisation des esprits. Elles disent vraiment avoir appris à nouveau à agir et à y croire, ce qui n'est pas une mince réussite dans les temps qui courent.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort. T'aurais couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. Te détruisent pour du papier. Pour souiller tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe. Car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres. Nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre de ta souffrance. Aujourd'hui ils sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombé dans la démence, écharmé par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pacha Mama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe. Le poing levé pour le combat, Pacha Mama. C'est nos racines qui sont en toi. Tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton bas rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toute part s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. Sont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre mère, patrimoine ancestral de vie. Considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte pour ta tristesse dans nos serres. Exploité comme nous autres, ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs. Torturé et meurtri dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas ta femme. Que ton règne revienne, que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Libre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force nous reprenne ses droits. Qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sol. Ton recouvert de ciment, jusqu'à étouffer ton sort. On t'empoisonnait ton air, souillait tes océans, tes rivières et tes mers. Et on vampirisait ton sang. Ils ont fracassé tes saisons. Régler ton climat, nous ont coupé l'horizon avec du béton dégueulasse. Ils ont exterminé ta faune, racheté ta flore, sous-estimé ta force pour nous condamner à mort. Pachamama.
Tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'était Kenny Arcana et sa chanson Terre mère n'est pas à vendre. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec Zoom Écologie et son équipe des radioactifs et des radioactives. Et l'on continue cette émission sur l'écoféminisme en écoutant Émilie H.
Pour un certain nombre d'entre vous, j'imagine, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, l'écoféminisme, et la façon dont on le connaît souvent en France, ou on le connaît mal plutôt, c'est à travers énormément de critiques, voire de rejets, qui viennent d'une grande littérature académique. Mais il me semble, peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance en tout cas, les mouvements antimilitaristes américains et anglais dont Bénédicte Stouni vient de parler, au sein desquels l'écoféminisme a émergé, est extrêmement peu connu, et en tout cas, s'ils sont peut-être connus, on savait qu'il y a des mouvements anti-nucléaires dans les années 80, aux États-Unis ou en Angleterre, on ne les rattache pas nécessairement à l'écoféminisme. Et ce qu'on s'était dit en préparant cette séance, c'était peut-être que la meilleure des façons, contrairement à ce qu'on fait peut-être d'habitude en France, mais la meilleure des façons de rentrer dans l'écoféminisme, c'était d'abord de parler de ce dont il s'agissait dans un premier temps, c'est-à-dire un mouvement politique. C'est à la fois, et de manière absolument indissociablement liée, un courant d'idées et un mouvement politique, ou des mouvements politiques, un activisme politique. Il est détaché, comme on a très régulièrement tendance à le faire, et j'ai pu y participer parfois aussi, quand on présente l'écoféminisme, me semble finalement couper l'écoféminisme d'un de ses pieds, voire plus que ça, puisque en tout cas, il me semble que ça peut expliquer une partie des incompréhensions, des mécompréhensions, qui sont liées à ce à la fois courant d'idées et ce mouvement politique. Donc ce que moi je me propose de faire dans un second temps, j'ai pas le bon rôle, mais c'est pas grave, j'espère que j'essaierai d'être un petit peu claire quand même. C'est de revenir finalement sur ces différentes critiques, il n'y en a pas 20 000, mais il y en a quelques-unes sur lesquelles on bute toujours, qui font partie. partie de la discussion. Il ne s'agit pas ici de vous donner la vérité vraie sur ces différentes critiques, mais de les relire à l'aune du mouvement auquel appartient l'écoféminisme pour pouvoir peut-être alors un petit peu plus complexifier et enrichir la façon même dont on peut discuter de cet écoféminisme. Bénédicte l'a dit en passant, si on veut, elle l'a signalé, à un moment donné, vous avez entendu parler par exemple de sorcières. Et il se trouve que ce qu'on entend par écoféminisme, je me réfère au mouvement auquel Bénédicte, qu'elle vous a présenté, pardon. Eh bien, cet écoféminisme, en fait, est, on va dire très largement, se compose très largement, on pourrait dire, de deux courants, effectivement, et qu'on présente de cette façon-là, d'ailleurs, à savoir, on va dire, un courant que l'on va appeler, je vais revenir dessus, néo-païen, et puis un courant athée, voilà, matérialiste. Enfin, il y a, selon les textes, le vocabulaire change, enfin, il y a un courant qui a un rapport avec la religion, à une religion très particulière, et puis il y en a un qui ne l'est pas. Mais de fait, ce n'est pas deux mouvements, je ne vous parle pas de deux époques différentes, de deux espaces-temps différents, je vous parle de deux courants, de deux, on pourrait dire de deux sensibilités même quasi politiques, au sein même de ces mobilisations dont Bénédicte a engagé. Peut-être qu'une façon de le comprendre, avant même de s'arrêter un petit peu plus longuement sur ce néopaganisme, que la façon dont on pourrait le comprendre pour essayer de faire un premier pas du côté des États-Unis, pour nous qui sommes un pays viscéralement laïque et qui avons, enfin, pour qui c'est très compliqué de comprendre cela, il me semble que la meilleure façon, peut-être dans un premier temps déjà, de pouvoir rester, on va dire, ouvert à une partie en tout cas du courant néo-païen de l'écoféminisme, que l'on a souvent tendance à considérer comme l'essentiel de l'écoféminisme et à cause duquel en général on va rejeter l'écoféminisme, c'est quand même de ne pas oublier que ce courant-là, néo-païen, s'inscrit, on pourrait dire, dans toute une tradition américaine de mouvements de libération qui se sont enracinés dans la spiritualité. Ce n'est pas du tout le seul, c'est un parmi d'autres. Évidemment, vous pensez aux Quakers, vous pouvez penser aussi au mouvement des droits civiques qui ont été très largement ancrés dans l'Église noire, ou encore aux traditions spirituelles des Indiens américains. Mais déjà, je pense que ça change un tout petit peu la donne que de se rappeler que, bon, déjà, c'est pas l'ensemble de l'écoféminisme, c'est faux. Et par ailleurs, c'est, voilà, dans ces mouvements-là, Bénédicte l'a pas dit, parce que c'était pas un des points intéressants de ce dont elle parlait, mais il n'y avait pas non plus que des néo-païennes, il y avait beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, notamment aux États-Unis. Mais voilà, c'est une sensibilité parmi nous. Pour nous, c'est impensable, ou ça, c'est encore en partie impensable, mais pour les États-Unis, c'est tout à fait différent. Et il me semble que ça, voilà, ça remet peut-être un peu, dans un premier temps, les choses à leur place. La deuxième chose aussi que je voulais dire pour commencer, c'était que, j'y reviendrai après, mais que lorsque vous allez lire les textes des écoféministes qui ont participé à ces mouvements, très important, pas celles qui ont écrit après coup, qui n'y ont pas participé, mais celles qui ont vraiment participé, qu'elles soient d'ailleurs néo-païennes ou qu'elles soient tout à fait matérialistes, athées, etc., vous trouvez, à ma connaissance encore, mais de ce que j'en, en tout cas j'en ai lu, très peu de critiques des unes vis-à-vis des autres, notamment sur ce point, encore une fois, lié à la religion. À savoir qu'apparemment, ce qui peut être pour nous, en tout cas dans notre réception d'écoféminisme, a été quasiment un point de rupture dont on a encore du mal à sortir aujourd'hui, ne serait-ce que pour discuter. Pour les écoféministes, enfin l'ensemble des écoféministes qui faisaient partie de ce mouvement-là, c'était des sensibilités différentes, c'est-à-dire qu'il y avait des fois aussi pas d'énervement, d'agacement, de désaccord, etc. Mais ce n'était pas un point de partage radical. Et de fait, ce que je voudrais faire, en fait, je vous ai dit, c'était de revenir sur certaines des critiques qui ont été adressées à l'écoféministe, et je voudrais y revenir à partir d'une définition, qui est pour moi une définition un peu programme, qui a été formulée par l'une d'entre elles, et même par l'une d'entre elles, qui est vraiment à l'origine notamment du Women's Pentagon Action dont vous a parlé Bénédicte, qui s'appelle Inestra King, qui propose une définition de l'écoféminisme, donc tant qu'à faire, autant aller se référer à celles qui connaissent un petit peu de ce dont il s'agit, et qui la propose dans un texte qui est peut-être, on pourrait dire, le premier texte, qui date de 83, qui cherche à théoriser, à définir l'écoféminisme. Et c'est on pourrait considérer que c'est vraiment le premier texte, encore une fois à ma connaissance, mais voilà, de théorie politique, c'est une sociologue, je crois, Inestra King, qui propose une définition et dans laquelle, cette dernière cherche justement à articuler, au lieu d'opposer, comme nous on a tendance à le faire, plutôt peut-être en France en tout cas, les différentes sensibilités écoféministes. Donc on va la lire et je voudrais voilà, un peu tourner autour de cette définition pendant mon propos. On peut utiliser les connexions aux femmes nature comme une position privilégiée pour créer une culture et une politique différentes qui intégreraient des formes de connaissances intuitives, spirituelles et rationnelles, embrassant à la fois la science et la magie, de telle façon à être capable de transformer la distinction nature-culture elle-même et imaginer et créer une société libre et écologique. Je précise que Inestra King, donc qui est une des féministes, des écoféministes à l'origine des Women's Pentagon Action, n'est absolument pas néo-païenne. Elle se revendique, elle se présente, je sais pas, comme une écoféministe matérialiste. Et c'est elle donc, qui propose une première tentative de dédéfinition, mais pour moi qui est vraiment une définition programme politique en même temps de ce que pourrait être, de ce que devrait être, de ce que pourrait être l'écoféministe, dans lequel vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout de partage des eaux, on pourrait dire, entre les écoféministes néo-païennes et puis les autres. Au contraire, l'idée, voilà, c'est de pouvoir penser une théorie commune à ces différentes écoféministes. Alors, je voudrais en fait m'intéresser à deux choses dans cette définition. Évidemment, revenir sur ces fameuses connexions femmes-nature, à propos desquelles il y a eu la plupart des critiques concernant un essentialisme de l'écoféminisme. Et puis, je voudrais également m'intéresser à cette position privilégiée bien intrigante, à mon sens en tout cas, concernant le rapport qu'elle postule concernant les femmes vis-à-vis de la nature, de la crise écologique plus largement. Mais avant cela, il me semble que c'est important de dire quand même deux mots, parce que je ne peux pas présupposer que tout le monde en ait entendu parler, de cet écoféminisme néo-païen, ne serait-ce que pour vous donner un petit point d'entrée aussi sur cette chose-là qui pour nous n'est absolument pas courant, fréquente, connue en France. Donc je vous le disais, c'est seulement une partie des écoféministes de ce mouvement-là qui se disent néo-païennes, que par ailleurs c'est une partie seulement, encore une fois aussi, de ceux qui pourraient avoir un lien avec une quelconque spiritualité dans ces mouvements-là. Et ces écoféministes néo-païennes appartiennent, mais ne sont pas représentées, d'un mouvement plus large, néo-païen, qui est venu de Grande-Bretagne aux États-Unis dans les années 60, et qui très largement réinventé, pour le dire rapidement, les traditions spirituelles de l'Europe pré-chrétienne. Or, ce mouvement néo-païen, c'est vraiment une nébuleuse plein de courants. Il y a maintenant à l'intérieur donc, de ces nébuleuses, il y a un courant qui nous intéresse particulièrement, puisque ce courant-là, c'est celui d'un néopaganisme féministe, qui effectivement honore non pas un dieu ou dieu, mais une déesse, la déesse, et qui se réclame d'une histoire, on va dire, pré-capitaliste européenne, qui notamment se particulariserait par l'éradication de ces femmes qu'on a appelées sorcières. Très étrange et très compliqué pour nous à comprendre, à la fois, on va dire, de se revendiquer et féministe et d'extrême gauche et de pouvoir se dire néo-païen, ça pourrait être quasiment des oxymores pour nous. Mais de la même façon, c'est très compliqué et tout à fait aussi bizarre de revendiquer des liens spirituels néo-païens, mais qu'elles revendiquent très clairement comme des liens totalement pragmatiques et inventés. C'est-à-dire que quand vous allez lire les textes, il faut lire des textes, sinon on ne peut pas discuter sérieusement, quand vous allez lire des textes de ce courant-là néo-païen féministe, elles le disent, Starhawk parmi d'autres, Starhawk c'est une de ces écoféministes néo-païennes, que ce courant-là s'autorise totalement à inventer ses pratiques, à inventer ses traditions, même si en effet elles héritent, voilà, mais de manière extrêmement libre de cette tradition pré-chrétienne européenne. Or, juste un mot dessus, parce que, et après je passerai aux deux autres points que je voulais vous dire. La critique évidemment principale, après coup, pratiquement plus que pendant, on va revenir sur ce point-là, mais la critique principale qui a été adressée à ces écoféministes néo-païennes, vous en doutez très, très certainement, voire vous le partagez, ce serait que toute forme de religion en général, ou en tout cas celle-ci en particulier, ne pourrait pas être un vecteur d'émancipation, mais serait nécessairement, on pourrait dire quasiment par nature, en tant que religion, un instrument d'oppression des femmes. Et c'est un des grands points de discussion et de désaccord fondamental, une des grandes critiques, pardon, qui a été apportée à cet écoféminisme. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui justifiait le fait qu'on puisse même mettre en cause leur féminisme. Le fait qu'elles puissent être féministes, alors même qu'elles pouvaient se réclamer néo-païenne. Pourquoi ? Parce que le fait de pour certaines, je donne des arguments que j'ai lus contre ces écoféministes néo-païennes, Parce qu'en revenant à des traditions pré-chrétiennes, c'est une façon de rejeter les Lumières, et on sait bien que les Lumières sont un vecteur d'émancipation universelle, et donc, par définition, c'était une façon d'un retour à l'obscurantisme. Et puis, parce que, encore une fois, par définition, pré-chrétien, pas pré-chrétien, c'est de la religion, et qui dit religion dit oppression, et certainement pas vecteur d'émancipation. Juste pour alimenter le débat, il ne s'agit même pas de dire qui a raison, qui a tort, même si je considère que ce n'est pas une bonne lecture de ce qu'elles peuvent proposer. Il me semble, pourquoi ce n'est pas une bonne lecture, je vais vous le dire, c'est que ces critiques ne me semblent pas tenir compte justement des dizaines, voire des centaines de pages dans laquelle ce courant-là, je ne suis pas encore en train de parler encore une fois de tout le courant de l'Opalium, je ne connais d'ailleurs pas bien dans son ensemble, je connais ce courant-là, mais est décrite, je vous le disais, comme une recréation, pas simplement comme une réactivation d'une tradition spirituelle passée, donc il n'y a pas de retour en passé. C'est une création contemporaine des années 80. Et que par ailleurs, et surtout, évidemment, c'est le point peut-être principal de discussion, il faut au moins l'entendre avant de pouvoir le critiquer, c'est que cette religion néo-païenne a été inventée, élaborée, imaginée par ces femmes dans l'idée de mettre radicalement en cause l'idéologie patriarcale présente notamment dans la religion chrétienne. Donc, on peut encore une fois considérer que ça ne fonctionne pas ou que ce n'est pas possible, mais de fait, la façon dont elles-mêmes se réfèrent à cette dimension spirituelle de leur activisme politique, c'est véritablement dans l'idée d'y trouver, je vous le disais tout à l'heure, un point d'appui à une forme d'émancipation. Et de fait, je reviens à sa définition, quand vous relisez sa définition qui a été proposée par une écoféministe non néo-païenne ou matérialiste, athée comme Aline Strachling, il est évident que, on va dire que cette définition ne considère pas comme rédhibitoire ce point de divergence de sensibilité pour les unes spirituelles et pour les autres non, face à la construction d'un mouvement et d'une théorie écoféministe plus largement. Le deuxième point donc, sur lequel je voulais revenir, et en observant toujours de cette définition, puisque là c'est pas du tout, c'est très elliptique, c'est juste une allusion, hein, c'est ces fameuses connexions femme-nature auxquelles, dont vous a parlé tout à l'heure Bénédicte en vous présentant une définition de l'écoféminisme. Et là encore, c'est vraiment le même point de grosse critique de l'écoféminisme, à savoir que certaines des écoféministes, voire l'ensemble des écoféministes, selon les critiques, auraient eu tendance, en effet, à tisser des liens d'affinité entre femmes et nature et reviendraient finalement sur tout le travail critique, des féministes notamment, de cette articulation entre les femmes et la nature. Et bien évidemment, vous comprenez que cette critique-là, elle est portée principalement à l'écoféministe néo-païen, mais sauf que la plupart du temps aussi, souvent, enfin, pas la plupart du temps, mais très régulièrement, on considère que l'écoféministe, c'est l'écoféministe néo-païen, donc c'est un même. Or, la complexité évidemment de la position d'un écoféministe néo-païen tient au fait, on pourrait dire, de chercher à tenir dans le même temps, il faut le tenir, on peut ne pas être d'accord, mais de fait c'est ce qu'elles disent, donc à un moment il faut juste les lire et écouter ce qu'elles racontent, c'est encore une fois, c'est un néo-paganisme féministe, et Starro, parmi d'autres, a toujours dit qu'elle a eu une formation, elle s'est formée, elle a découvert et elle est devenue... néo-païenne, en même moment qu'elle devenait et qu'elle se formait au féminisme. Et pour elle, c'est absolument indissociable. Or, ce qui est évidemment extrêmement compliqué dans l'écoféminisme néo-païen, c'est de tenir d'un côté une articulation critique de la destruction de la nature et des rapports de domination entre les sexes, féministe, la dimension féministe de ce mouvement-là, et d'un autre côté, on va dire, d'élaborer une religion néo-païenne qui, notamment en s'appuyant sur une figure de la déesse, donne l'impression très clairement de passer pour, de rentrer dans une forme d'essentialisation de la féminité, des qualités féminines. Alors, à mon sens, et après lectures, etc., il me semble que, ce que j'aurais envie de dire par rapport à cette accusation d'essentialisme, ce serait quelque chose en deux temps. À savoir que il me semble en effet qu'à la lecture de, et encore une fois j'ai pas lu du tout tous les écoféministes néo-païens, mais j'en ai lu un certain nombre, qu'on ne peut pas ne pas reconnaître une part d'essentialisme parfois dans certaines pages d'écoféministes néo-païens, oui, ok, très bien, mais qu'en même temps ça serait aussi inexact de pas les reconnaître que de ne pas reconnaître dans l'autre sens qu'il y a énormément d'autres pages qui ne le sont pas et qui le disent explicitement. Je vous donne juste un exemple qui pour moi m'a confirmé dans cette interprétation-là, à savoir dans une introduction à une réédition du grand texte des Gouvernements néopériens de Star Wars qui s'appelle The Spiral Dance, qui c'est un texte qui date de 1979, donc c'est une réédition, je crois, qui datait là, de 10 ans après. Star Wars raconte et dit explicitement que à cette époque, c'est-à-dire en 1979, quand elle écrit ce texte et qu'elle a même pas 30 ans, elle avait tendance à concevoir de manière réifiée, les qualités féminines et masculines, conception dont elle s'est depuis éloignée. Elle le dit explicitement, c'est-à-dire qu'elle dit explicitement qu'elle a été certainement au début de son élaboration féministe et communiste, pas loin d'attribuer voilà, des qualités essentialistes aux hommes et aux femmes d'un côté, mais qu'en même temps, la suite de sa réflexion politique l'en a détachée. Et il me semble que l'on pourrait, à ce titre, facilement admettre une pensée en évolution dans ce mouvement dont on vient de parler, à savoir qu'il s'agit quand même, il ne faut quand même pas tout à fait l'oublier, essentiellement de jeunes femmes de moins de 30 ans dans un contexte de bouillonnement théorique et ultra-activiste, et que oui, mais je pense que je ne suis pas la seule, on a pu toutes considérer revenir sur soit en considérant qu'on a eu des positions présentes qui n'étaient pas forcément celles qu'on garderait aujourd'hui, soit qu'on avait des façons de formuler qui ne nous conviennent plus, qu'on trouvait trop simplifié, ou qu'on trouvait un peu maladroite, etc., etc. Donc je pense que ça serait stupide de ne pas le reconnaître, qu'il y a, vous avez des pages où c'est écrit noir sur blanc, que voilà, on prête des qualités féminines dans cette époque féministe, et qu'en même temps, il n'y a pas que ça, il n'y a vraiment pas que ça. Et par ailleurs, deuxième chose sur cette accusation-là, qui moi me semble aussi éclairer très largement la façon de comprendre certains textes d'écoféministes, c'est que cette accusation d'essentialisme porte principalement sur les références qui sont faites dans ces textes au corps féminin. À savoir que, et c'est pour moi une des choses très intéressantes en tout cas dans cet écoféminisme, c'est le fait de considérer qu'il y a une importance politique, psychologique, sociale, émotionnelle, de toutes les dimensions que vous voulez, à réévaluer le corps féminin, à se réapproprier ce corps sur lequel l'essentiel de l'exploitation et de la domination patriarcale s'est fait. Que pour un processus d'émancipation, ce ne sera pas que par un certain nombre de théories et de mots, mais qu'il faudra aussi repenser et revenir sur ce corps. Et que de ce point de vue, réduire d'une certaine manière ces tentatives, à mon sens, de réappropriation et d'émancipation à une simple essentialisation des qualités féminines est pour moi un contresens. Maintenant, sur ce point en particulier, je pense qu'une des raisons qui aussi peut nous faire tendre à ne le lire que sous la lumière, on va dire, de l'essentialisme, serait qu'on n'a pas appris, mais nous non plus, à tellement parler du corps dans cette culture qui est une culture très rationnelle et très dématérialisée, pour le dire autrement. Donc elles sont elles-mêmes les premières à essayer de le faire, et elles le font certainement de manière souvent très maladroite, mais que pour autant, il s'agit aussi de savoir de quoi on parle, à quel moment c'est écrit, etc. etc. Au lieu d'essentialiser ces liens historiquement construits entre les femmes et la nature, mais aussi, on pourrait dire, au lieu de les jeter, ce que vous voyez à l'œuvre ici dans cette définition qui me semble tout à fait intéressante, c'est que King propose de les considérer, on pourrait dire, je reprends ces termes, une position privilégiée permettant de construire une culture et une politique différente. Alors de quel point de vue comment comprendre cela? On peut l'entendre en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'entendre dans un premier temps, c'est-à-dire que les femmes auraient un rôle pivot à jouer dans la bataille environnementale que nous avons à mener. Donc, évidemment, j'imagine que la première réponse, c'est de dire oui, l'essentialisme, il est parti par la porte, il revient par la fenêtre, donc on revient exactement au même point. Dans quelle mesure on retombe pas dedans, pourquoi les femmes, elles ont un rôle spécifique, c'est en tant que quoi, en tant que femme bon. Or, ce qu'elle est en train de dire ici, et c'est vraiment, même d'un point de vue, pour le coup, d'histoire des idées, c'est assez étonnant, c'est que ce rôle spécifique est très clairement à entendre au sens d'une position épistémologique privilégiée qui est liée, on pourrait dire, à la place socialement construite qui est occupée par les femmes dans notre société. Or, vous avez reconnu ici, j'imagine pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui s'appelle la théorie du point de vue situé, qui est une grande théorie de philosophie des sciences féministes, qui a été élaborée absolument au même moment, ou quelques années après, en fait, par Donna Haraway et par Sandra Harding, mais qu'on découvre sans surprise que cette réflexion est évidemment présente chez les écoféministes, même si elle n'a pas donné lieu à une théorisation finalement aussi poussée et complexe que chez ces autres philosophes. Alors, de quoi s'agit-il, pour le dire très simplement, cette idée d'un point de vue situé, d'une position épistémologique privilégiée, l'idée que, en raison de rapports sociaux dans lesquels les femmes sont inscrites majoritairement dans nos sociétés, c'est-à-dire aussi, on pourrait dire, en raison de leur expérience, même si on peut discuter de ça, eh bien, ces dernières seraient susceptibles, c'est pas automatique, mais elles seraient susceptibles, de faire finalement peut-être plus facilement le lien entre rapport de domination de genre, rapport de domination sur la nature, rapport de domination de classe, etc. Je vous cite juste un autre petit extrait de King dans ce même article très intéressant et très important. Pour les écoféministes, les technologies militaires sont connectées avec le viol, le génocide, l'impérialisme, la famine, l'absence de domicile et l'empoisonnement de l'environnement. Donc, pour le dire, voilà, encore une fois, peut-être très rapidement, ça serait la même culture qui se présente à la fois comme, évidemment, militariste, impérialiste, sexiste et raciste. Je voudrais dire peut-être encore cela. En tout cas, on comprend ici, à mon sens, que c'est cette idée d'une position privilégiée, c'est une façon de prendre en compte le fait que les femmes se trouvent les premières touchées, clairement, par la crise écologique, et d'expliquer aussi que ce sont, ou de prendre en compte que ce sont aussi souvent les premières qui sont sur le front de ces luttes écologiques, et que finalement faire ces connexions entre les femmes et la nature sous la forme d'une position privilégiée et pas sous la forme d'un essentialisme, c'est une façon d'inviter finalement ces dernières à transformer ces liens qui sont subis en outils de lutte et en outils d'émancipation. Pour conclure, comment alors, quand on a entendu ce que nous a raconté Bénédicte Zitouni sur cette histoire un peu oubliée de l'émergence de cet écoféminisme, comment expliquer finalement un tel écart entre ce mouvement politique très complexe, qui a produit un certain nombre de textes, quand même. Enfin, il y a beaucoup de volumes qui sont liés, qui relèvent de ce mouvement-là, qui nous donneraient donc la possibilité de connaître véritablement leur position de manière précise, de manière non caricaturale. Comment expliquer l'écart entre donc, ce mouvement-là et puis finalement ce qui nous en est arrivé, notamment, peut-être pas qu'en France, mais en tout cas en Europe, en tout cas en France certainement, à savoir qu'en effet, à partir des années 90, donc à la fin finalement de ces mouvements-là, le mouvement politique, ce mouvement politique s'éteint d'une certaine manière, mais il s'éteint historiquement, mais il disparaît aussi des textes, et des textes notamment académiques, pardon, sur l'écoféminisme. C'est-à-dire, c'est pas des blagues, c'est que les noms même de toutes ces écoféministes, Inès Tracking, Winkler, etc., disparaissent des textes. Hein. On ne parle que de manière très générale, très abstraite, de l'écoféminisme en général. Il ne reste finalement que le fameux, dont on n'a pas parlé de manière volontaire jusqu'à présent, le fameux néologisme de Françoise Daubonne qui a inventé ce terme d'écoféminisme en 1974, mais voilà, qui flotte au milieu de nulle part, sans histoire, sans aucune connexion politique et historique, alors qu'il est tout à fait pris dans cette histoire-là, ce néologisme, puisqu'il a été immédiatement traduit par une théologienne féministe néo-païenne. Désolée pour... qui l'a amené dans ce mouvement-là, hein, qui s'appelle Marie Daly. Le vrai début de cette histoire-là, c'est celui que vous a raconté Bénédicte, à savoir que le mot d'écoféministe rentre dans le lexique politique et théorique, non pas avec ce texte de Françoise Daubonne, mais avec la déclaration unitaire des Women's Antagon Action en 1980. Et je termine vraiment là-dessus, à savoir que peut-être que, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il me semble que s'il y a un partage à faire, ce ne serait pas entre, d'un côté, des écoféministes obscurantistes, complètement essentialistes, un peu bêtes, je ne sais pas quoi, et puis les vrais bonnes écoféministes. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que moi, sinon, j'aime que les écoféministes. En tout cas, pour moi, il se passe pas là, le partage. Le partage me semble beaucoup plus réel, même si, pour moi, il ne se passe pas encore complètement, entre un écoféminisme historique, complexe, qui est ancré dans un mouvement encore plus large, politique et activiste, et puis un écoféminisme académique, et je fais partie de l'académie, complètement abstrait, très largement apolitique, et qui peut-être, à force de vouloir rendre présentable cet écoféminisme, notamment en raison d'une partie de ses affinités spirituelles, a, me semble-t-il, très largement fini par jeter, on va dire, le bébé avec l'eau.
Voilà. C'était Émilie H. qui concluait cette émission sur l'écoféminisme qui vous était proposée par les radioactifs et les radioactives de Zoom Écologie. Il est maintenant 21h30 et c'est l'heure de musique antille. Mais vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet zoomecologie.net. A très bientôt, au revoir, bonne soirée.
mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bain-sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et la tombe, inversion des vols vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confrérie et business en haut de la pyramide, ta sponsorise le sang, entre char et usine, innocent dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des ministres de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus, caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se baptisent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, qui cette merde est réelle, donc on battra encore, c'est la malade à l'Ivra, qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, qui peut être injecté dans une plaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque que les membres rentrent tôt, ils apprennent la ruse dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est positif, la grisaille demeure, dans les cœurs meurtris, qui a peu si peu meurt, ne pleure, sois pas ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur, prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste, même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste, seul déconstruit son monde, apprenti créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur, Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond, qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion, maîtresse de nos esprits, crédule et naïve, conditionne en massif, là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion des galériens, ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien, prends conscience mon frère, reste près de ton cœur, méfie-toi du système, assassin et menteur, éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras, humanité humaine, seul amour nous sauvera, écoute le silence quand ton âme est en paix, la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée, vérité en nous-mêmes, fruit de la création, n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission, dernière génération à pouvoir tout changer, la vie est avec nous, n'aie pas peur du danger, alors levons nos voix pour ne plus oublier, bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller, tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair, retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève, une lueur suffit à faire fondre les ténèbres, s'essouffle ce temps, une odeur de soufre, la faim se ressent, la bête en voûte, la foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel, terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie, calomnie, le cœur à la bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie, l'époque, le pire, une part des conséquences, le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp, l'être humain s'est perdu, concentré sur la voie, les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie, quadrillage ficelé, mais passe la lumière et confiance en la vie, en la force de tes rêves, tout un ange à l'épaule, présent si tu le cherches, quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes, la mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine, l'humain se décime, espoir indigo, les pléiades nous désignent, lève sa tête et comprend, ressent la force en ton être, dépasse Babylone, élucide le mystère, rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse, enfant du quinto sol, comprends entre les lignes, comprends. entre les lignes. Au fond du crime au sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. Les grands, ton cœur. Désobéissant, car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.